et sur concert.radiofrance.fr. Du 10 au 21 juin, Radio France, partenaire de Cinéma Paradiso, le plus grand drive-in jamais réalisé sous la nef du Grand Palais. Autour de cette salle de cinéma unique, une cantine américaine, une piste de roller, des jeux vidéo cultes. Profitez toute la journée d'animation ludique. Cinéma Paradiso vous embarque dans une expérience inédite pendant 12 jours, en plein cœur de Paris. Plus d'informations sur radiofrance.fr.
France Inter. La voix est libre.
Il est 15h04, on retrouve là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
J'ai acheté des vêtements chez Zara, je les ai portés, et subitement, une odeur de brûlé. Je les ai quittés vite, 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 en pensant que les morts du Bangladesh avaient allumé le feu de ma conscience.
Cette semaine marque le début d'un prétendu débat public sur la gestion des déchets nucléaires et l'opportunité de les enfouir à Bure dans les couches d'argile du plateau lorrain. Voici presque 20 ans qu'on a proposé aux Meusiens un prétendu laboratoire en vue de construire une vaste poubelle nucléaire. On y a vu des dégoulinades de fric pour persuader les collectivités locales d'accepter ce projet. On y a vu une intrusion dans le système éducatif à grand renfort de cassettes vidéo et autres DVD pour que les gentils élèves rapportent la bonne parole nucléaire à leurs parents. Mais on n'y a guère vu d'élus pour mettre en doute des paroles tellement convenues. Imaginez un instant qu'une fuite radioactive se déclare au bord du plateau. Non, les scientifiques ne se trompent jamais.
Bonjour Daniel, voilà, je voudrais dire qu'en effet, comme l'a dit l'AMG aujourd'hui, vendredi, nous n'avons pas entendu dans les journaux télévisés la moindre allusion aux menaces sur les hôpitaux de Paris. Merci Daniel d'en faire une émission là-dessus, si tu pouvais quoi. Autre chose, la Syrie, je m'étonne du peu d'intérêt des AMG pour ce drame. Après tout, les morts de Moubarak furent 100 fois moins nombreux que ceux d'Assad. Et là, il y a eu des reportages de là-bas si j'y suis. Alors, une émission consacrée à cette guerre de Syrie serait aussi très intéressante à suivre. Nous n'avons que les points de vue de la télévision. C'est dire. Jean-Claude, de Salon.
Bonjour, je suis Patrick Loquet. Je suis fils de mineur, je viens d'entendre votre émission, j'ai 63 ans. Que de souvenirs, mais je voulais simplement ce témoignage, papa qui est mort de la silicose, comme beaucoup d'entre eux, et il me disait, mais les socialistes, ils ont fait ce que les Boches n'ont jamais fait, ils ont fait tirer sur les mineurs, et ça, pour mon père, c'était quelque chose, voilà. C'était assez étonnant, quand il m'a dit néanmoins, en 1981, j'ai voté pour Mitterrand, oh, je me suis dit, bah là, si toi t'as voté pour Mitterrand, je crois que cette fois-ci, il sera élu. Voilà, salut à tout le monde et bravo pour votre reportage, ça m'a beaucoup ému.
Oui, c'est Robert du Puy-en-Velay. Suite à l'émission sur les mineurs, je voudrais rappeler que Madame Lagarde a fait appel sur le jugement concernant les mineurs et elle n'a pas fait appel sur le jugement concernant Bernard Tapie. Étonnant.
Salut Daniel, merci pour cette émission, merci avec Achille Blondeau, j'en suis tout ému, c'était magnifique, même si les temps sont durs, je suis vraiment heureux de payer une redevance qui permette de faire des émissions comme celle-là, merci. Les archives de là-bas, si j'y suis, je pense, serviront à pas mal d'historiens dans le futur. Quand la radio fait un travail de mémoire et d'histoire comme ça, c'est magnifique. Merci encore.
Oui, bonjour Philippe de Condam. Si vous signalez que le film La Grande Lutte des Mineurs est visible sur le site Cinéarchive, on le voit dans son intégralité, ce film réalisé par Louis Daquin. Voilà, le site donc Cinéarchive. Voilà, au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Je ne sais pas où vous êtes, mais moi, d'ici, temps gris, pluie sur les toits gris, un temps idéal pour le fado, pour écouter du fado, pour se laisser bercer et enivrer par le fado. Alors je vous propose un retour à Lisbonne, un retour pour une nuit de fado, c'était il y a 20 ans, et c'était un moment où les Lisboètes et les Portugais en général se réappropriaient leur musique. Une musique qui avait été longtemps confisquée, pervertie, salopée par la dictature de Salazar, la dictature portugaise, qui avait mis le fado avec deux autres F, fado, Fatima, football. Les grands principes démagogiques de la dictature. Alors, on trouvait des gens à l'époque qui ne voulaient plus entendre le fado du tout, et ceux qui, au contraire, se réappropriaient cette musique et qui se réappropriaient la grande Amalia Rodriguez, par exemple, qui est la grande star, la grande étoile du fado. Par parenthèse, en Allemagne, c'était les 3K, Portugal 3F, Allemagne les 3K, Kinder, Küche, Kirche, enfant, cuisine, église, ça s'adressait aux femmes. Là, on va s'occuper que d'une seule lettre, le F de fado, deux notes de musique, fa, do, jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Monsieur le Président, nous vous adressons cette lettre, que vous lirez peut-être. Notre collectif, composé de professionnels, psychiatres, infirmiers, éducateurs, psychologues, psychanalystes, de patients et de familles, d'acteurs du monde de la culture, est né en 2008 en réaction aux prises de position de votre prédécesseur, considérant les malades mentaux comme des êtres potentiellement dangereux. Il s'agissait d'utiliser un fait divers pour alimenter une idéologie politique sécuritaire. En prenant la personne souffrante pour cible, cette position éminemment stigmatisante a provoqué un émoi justifié parmi les citoyens de notre pays. 40 000 personnes signèrent alors un texte dénonçant vivement cet incroyable recul culturel. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Président, que cette pression inadmissible procède d'une idéologie normative, véritable fléau pour la capacité de débattre, d'élaborer des idées? Monsieur le Président, nous vous demandons solennellement d'intervenir. Notre actualité sur le site www.collectifpsychiatrie.fr.
Salut Daniel et tous les AMG. J'appelle pour pousser un cri. Je travaille chez Air France à Orly et ça fait maintenant 6 semaines que nous sommes en grève avec différents services de l'exploitation sol. 6 semaines de mouvement, 6 semaines de lutte. Le dialogue social n'existe plus. Les négociations ne sont pas à l'ordre du jour. Le mépris est ambiant. Les collègues craquent, prennent des cachetons, la direction s'en fout. Mais on lâche rien, on doit jouer collectif. Et honte à tous les cadres qui viennent faire du renfort pour briser la grève. Honte à Monsieur Diard qui veut nous rendre un faune. On n'a pas dit notre dernier mot. J'espère, Daniel, que tu seras notre porte-voix. Merci. C'était Patricia, Sud-Aérien, Orly.
Bonjour, c'est le Printemps des Rues, festival de théâtre de rue à Paris, le plus ancien. Il fête ses 16 printemps le long du canal Saint-Martin, les 18, 19 et 20 mai, de 14h30 à 22h. Spectacle pour tous les publics et en plus, ils sont tous gratuits, entrée libre. Venez nombreux, le point d'information est au 116 quai de Jemap, dans le 10e arrondissement.
Si je sors un billet de 500 euros de ma poche et que je le jette négligemment sur le trottoir, quelqu'un va le ramasser, forcément. Je pourrais pas le lui reprocher, je l'ai jeté le billet. La police ne pourra pas lui dire au voleur qu'il était par terre le billet. Alors pourquoi ne dit-on pas à Unilever, vous ne voulez plus d'éléphants? Eh ben c'est pas grave, nous, éléphants, on le ramasse et on le garde pour nous.
Bonjour, c'est Marianne de la Bastide de Marnac. Ce matin, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire que le Festival de Cannes était une création de la gauche en 1946. C'est pas tout à fait faux, mais il aurait pu être plus précis. C'est quand même une idée du ministre de l'Enseignement et des Beaux-Arts, Jean Zay, qui avait proposé la création du Festival de Cannes. Et la première édition aurait dû se tenir en septembre 1939, mais à cause de la guerre, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Voilà, c'était un radical socialiste. Au revoir.
Bonjour Daniel, nous sommes le collectif de soutien à Notre-Dame-des-Landes, 07 Vernoux. Nous relayons la lutte contre le projet de construction de l'aéroport. Pour symboliser et populariser cette lutte, nous avons construit lundi 6 mai une cabane dans un arbre en plein centre-ville de Vernoux en Vivarais, en Ardèche. Des personnes ont dormi toutes les nuits en binôme, quelquefois avec des enfants, sauf la nuit du matin 11 mai au dimanche 12, puisqu'il était prévu de démonter la cabane ce dimanche matin. Et cette nuit-là, vers les 5h du matin, la cabane a brûlé. Le tilleul aussi. La pompe à essence, qui se trouvait à quelques mètres de là, a été épargnée. Et ouf, il n'y avait personne dans la cabane. C'était Théo de Dunière.
Je suis le médecin qui avait exprimé mon désarroi en octobre 2012 devant la diminution des moyens et surtout du personnel soignant, sachant que le meilleur médicament, c'est bien sûr l'être humain, c'est-à-dire le soignant. J'en profite pour dire que, ayant écrit à notre ministre, Madame Touraine, pour lui décrire le caractère absolument dramatique du métier d'aide-soignante en maison de retraite, cette lettre est en ligne et surtout la pétition qui soutient notre demande de personnel. Elle a été signée massivement dans notre région. Donc allez sur Facebook, vous tapez maison de retraite égale mouroir point d'interrogation. Et oui, je suis une optimiste, alors j'espère qu'on pourra bientôt rayer le mouroir, mais c'est pas sûr pour l'instant. Et merci Daniel de continuer à ne pas parler la langue de bois, à appeler un chat, à dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vraiment grave ce qui se passe avec nos seniors. Tout ça ne devrait pas nous laisser indifférents, aucun d'entre nous. Merci Daniel. Je suis docteur André, maison de retraite de Montmirail dans la Marne.
Coimbra, uma lição de amor e tradição. O lente é uma canção. E a lua, a faculdade, o livro é uma mulher. Só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
Cette souffrance qui fait jouir, cette jouissance dont on souffre. Deux petites notes de musique, fa, do, le fado. Le fado, vous le savez, c'est la musique de Lisbonne, la chanson de Lisbonne, l'art et l'âme secrète de cette ville, Lisbonne. Le fado, on le connaît par sa diva, la grande, l'immense Amalia Rodriguez, la Piaf, la Kalsoum, la Billie Holiday de Lisbonne. Et à travers Amalia, c'est le Portugal, c'est les Lisboètes qui se célèbrent, bien sûr, eux-mêmes. Mais les Lisboètes eux-mêmes chantent toujours le fado. À Lisbonne, bien sûr, il y a quelques boîtes à fado pour touristes, de fade, le fade fado pour touristes, mais c'est très facile de les éviter. Et c'est pas difficile du tout de vous faire tuyauter, vous faire accompagner pour passer une soirée dans un bistrot quelconque de vin rouge et de morue, dont le Barro Alto, par exemple, ou dans Alfama, ou alors dans des quartiers encore plus éloignés. Et là, c'est le bonheur d'entrer dans un rad un peu glauque, fumée, friture, néon cru, formica et caillé, avec des bouteilles de gros rouge alignées sur les murs, une vierge de Fatima pleine de chiures de mouche et la sueur du populo du quartier. Et là, autour de vous, il y a des mamies en noir et dentées, des pépés qui ont l'air de revenir d'un enterrement et de partir pour un autre, par les rues tordues, les pavés noirs et déjantés, et les tramways qui brinquent-ballent et trimballent éternellement, bien sûr, des marins de goudron dans des bordels d'acétylène. La balade aujourd'hui, c'est jusqu'au bout de la nuit de Lisbonne, jusqu'au fond, au très fond, au fort intérieur, aux racines, au diamant encore palpitant de l'âme des petites laitues. Alors nous voilà partis pour la ronde de nuit, nuit de Lisbonne, dans la nuit fertile, dans cette ville encore vraie, encore secrète et encore sacrée. Nous voilà vers le Bairro Alto, le quartier haut. C'est un peu le quartier de la Movida de Lisbonne. C'est à moitié branché et à moitié authentique encore. Et on sait déjà à l'avance qu'au bout de l'absinthe, au petit jour, au bord du Tage, il n'y aura que deux solutions. Ou bien se noyer, ou bien partir pour un nouveau monde.
Mmh.
criatura, tinha razão minha mãe. É loucura adorar-te, está sedenta de ternura, sem mesmo poder beijar-te. Chorai, chorai, guitarras da minha terra, que o vosso pranto encerra as mágoas do meu passado. E se é loucura amar-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar calado. Quer não queira, não posso amar calada.
Santeira!
On est dans une tashka qui s'appelle la Mashkot Rouada Atalay, dans le Bayroualt. Et c'est une tashka, l'une des rares tashka encore dans le Bayroualt, où on chante ce qu'on appelle le fado vediou, c'est-à-dire le fado vagabond, le fado de la rue.
Il y a une fenêtre qui est masquée par un vieux rideau, derrière une cuisine, des casseroles, des faitous. Et puis, alors là, toute une série de petits panneaux, de petits écriteaux qui sont là sur le mur, au-dessous des rangées de bouteilles de vin. Qu'est-ce que ça raconte, tout ça ?
Alors, par exemple, il y en a une qui dit « Tout le monde jalouse le vin que je bois, mais personne ne me jalouse lorsque je tombe par terre. »
Canta se silencio o fado.
C'est silence, on chante le fado.
Ah, une dame commence à chanter, là.
Oui, en fait, c'est ça. C'est les gens viennent, ce sont des gens qui habitent dans le quartier et qui viennent ici le soir, ils viennent boire un verre et ils chantent. Ils chantent le fado, ils chantent leur saudade.
Vous trouverez beaucoup de lisboètes, de portugais qui vous diront qu'ils n'aiment pas du tout le fado. Le fado rappelle pour certains le temps de Salazar où on parlait des trois F, les trois F qui écrasaient le Portugal. Les trois F, c'est le football, Fatima et le fado. Mais il suffit qu'un fado soit chanté dans un taxi, à la radio ou n'importe où pour qu'immédiatement votre interlocuteur qui vient de vous dire qu'il n'aime pas le fado se mette à chanter le fado. Le fado, c'est quelque chose de très profond, évidemment. Alors, on attend que nos amis dans ce petit bar, ce petit bistrot, commencent à chanter, que le fado lui-même arrive.
Para ouvir o fado rasca, por fado estás difícil. Eu fosse era uma tasca na calçada de carriça. Eu fosse era uma tasca na calçada de carriça. Para honrar a tradição dos faias da velha escola, beberam dois ao balcão à saída da gaiola. Beberam dois ao balcão à saída da gaiola. Entre dois copos de vinho, um prato de camarões, preparei o Armandinho para tocar variações. Preparei o Armandinho para tocar variações. Depois vi passar os touros para o campo de Santana, naquele quarto tristonho que eu tenho no bairro alto.
Sai.
Naquele quarto tristonho que eu tenho no bairro alto.
Voilà, c'est un fado sur le lieu où l'on est, sur le quartier où l'on est, le Bayreuth. C'est leur quartier et ils chantent leur quartier là.
La patronne vient de réussir à fermer la porte.
Oui, parce que là maintenant elle n'espère rentrer personne. Là, je ne sais pas s'ils vont continuer à chanter ou pas, mais là ça va vraiment être à huis clos complètement.
Saudade, c'est quelque chose qui on peut pas donner le sens en français, en anglais, en japonais, non.
Mais ça existe vraiment?
Ça existe. C'est une parole avec beaucoup de sentiments pour le peuple portugais. Le peuple portugais est un peuple qui a des saudades de tout ce qui est proche, de tout ce qui est propre. De tout ce qui est cher. Pour quelqu'un, nous avons saudade pour quelqu'un qui part. Mais le sens, c'est difficile. Le sens est chanté dans le fado. Et le sens est vrai. Saudade, le peuple portugais est un peuple de saudade. C'est un sentiment. Le peuple portugais est un peuple... très sentimental, je crois. Nous avons ces choses sans aucune importance pour un Américain, par exemple, mais pour nous, Latins, et pour nous, Portugais, ça signifie beaucoup.
Mais toi, personnellement?
Eh bien, il manque quelque chose. Il a une petite partie du cœur qui n'est pas ici, est là. Alors, ça signifie saudade. même pour les personnes qui chantent le fado, c'est un sentiment très très fort. Comme moi, ensemble portugais, oui, c'est vrai, c'est sentimental.
Une petite partie de cœur qui manque. C'est très beau, je trouve, cette façon de parler de la saudade. Et celui qui parle, c'est Georges, et il est chauffeur de taxi, un de ces taxis noirs et verts qui sillonnent les rues et les ruelles de cette ville que j'adore, qui est Lisbonne. Cette petite partie de cœur qui manque, c'est ce manque qui fait Lisbonne. Ce manque, c'est la saudade, et la saudade, c'est le fado. Fado, on dit que ça vient de Fatum, que c'est la fatalité, c'est une façon d'accepter son sort, mais évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Quelqu'un a défini le fado comme un désir absurde de souffrance. Et on retrouve là ce qu'on retrouve dans le tango. Nous aimons être tristes, disent les amateurs de tango. C'est des sentiments qui nous sont un peu étrangers à nous autres Français, comme l'art de se moquer de soi-même. C'est une chose à quoi nous avons du mal à accéder. En tout cas, aujourd'hui, on va se balader dans cette musique, dans ce fado, dans ces mélopées âcres, tenaces, collantes. Et on va dans un quartier très fameux, Lisbonne, sur une des collines de Lisbonne. Et c'est sur une de ces collines. Alors, c'est encore des villages, Lisbonne. C'est encore des villages juxtaposés, enchevêtrés, emmêlés, comme ça. Il y a toute une vie de villages. Le soir, dans Alfama, par exemple, les gens sortent leurs petites chaises dans ces ruelles extrêmement tordues, compliquées, qui finissent souvent en impasse. C'est absurde, c'est merveilleux. C'est vraiment une ville où on peut se paumer, qui vous incite à l'oisiveté et à la rêverie. Et ça sent l'orange le soir, ça sent évidemment la sardine, l'huile chaude, et bacalao, la morue. Et là, on entre dans cette boîte, dans Alfama. Et là, c'est un des hauts lieux du culte. C'est un culte, c'est un rituel, le fado. C'est très familial, c'est très propre, très familial, c'est délicieux. Et puis, au bout d'un moment, le silence, mais quel silence, se fait au-dessus des nappes bleues et blanches. Tout le monde s'arrête, les petites serveuses avec leur... très joli, tablier à volant blanc s'immobilise et le fado commence. Il y a seulement un petit projecteur qui s'allume sur les musiciens, sur la chanteuse. C'est vraiment un culte, ce qui reste quand l'homme fait son spectacle pour lui-même face à la mort.
Dentro de mim. digo que não te quero. E de noite sonho contigo.
Elles vivent dans une rue obscure. La tristesse, l'amertume, l'angoisse et la solitude dans une seule chambre fermée. C'est là aussi qu'habite mon fado et que se tient mon cœur. Nous avons tant et tant marché, tous les trois, nous donnant le bras à la tristesse, l'amertume et moi. La nuit, un fado qui a déjà pleuré sort de cette chambre fermée et envahit la rue obscure. Nous sommes les voisins de l'ennui, un monsieur sans remède, dans son obstination. Il vient jusque dans ma chambre fermée, il s'assied là, à côté de moi, sans laisser rentrer jamais personne. Dans cette joyeuse demeure, il n'y a de place pour rien d'autre et personne ne pourrait encore y tenir. Seul, un fado de plus peut s'y glisser, car dans cette chambre fermée, on pleure bien le fado. C'est très beau, hein, c'est la traduction d'un poème d'Amalia Rodriguez. Évidemment, un poème qu'elle chante, l'immense diva du fado, la fada du fado, Amalia Rodriguez, qui, elle non plus, n'arrive pas à très bien définir le fado. Elle parle de sortilège, elle parle de mystère, de la vie et de la mort, mais comme tout le monde, elle tombe en panne assez vite pour définir ce que c'est, ce mystérieux, cet étrange, cet étonnant fado. Elle dit « J'ai passé ma vie à attendre ma vie », c'est vraiment le fado le plus pur. On reste pour l'instant dans cette petite boîte, à paumer dans les ruelles, au bout des ruelles d'Alfama. À nouveau, le silence se fait, le culte va avoir lieu. Miracle.
Eu conheci, era um ébrio, era um vadio que andava na moraria, talvez ainda mais magro que um cão galgo, a dizer que era fidalgo por andar com a fidalguia. O poeiro enjeitado que tendo embarcado nas crevelas do cama. Malandrejado e sujo, mais gingando que o marujo dos velhos tempos da Alfama. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei mais, sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Perguntam-me por ele, eu conheci-o num constante desvario, sempre amigo da balbúrdia, que entrava no moirão a horas mortas e a abrir as meias portas, era o rei daquela estúrdia. Fui às esperas de gado, fui cavaleiro afamado, era o delírio no entrudo. Naquela vida agitada, ele que veio do nada, não sendo nada, era tudo. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sem me puxar para a vaidade. Sei mais, sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Sei mais, sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade.
Les Portugais, au fond, ils sont plus proches de l'Europe ou ils sont plus proches de l'Afrique?
Je crois que ni l'un ni l'autre, je crois qu'ils sont plus proches de la mer. Et c'est la mer qui les a appelés pour les grandes aventures et pour les conquêtes. Et je crois que c'est la mer la sortie pour son évolution.
C'est encore le voyage. Les Portugais sont la mer, sont la distance, et on doit savoir que la mer symbolise l'inconscient, l'inconscient. Toujours le voyage.
Vous m'avez demandé ce qu'était la saudade, et maintenant je me rappelle, quand les femmes voyaient leurs hommes partir à la mer, et qu'elles restaient au quai en les attendant, je crois que c'est ça. On ressent peut-être cette saudade parce qu'il y avait quelque chose qui était un tout complet et qu'on a perdu une part et on la recherche. L'objectif final des découvertes, c'était repérer l'île des amours où les hommes récupéraient l'unité perdue.
C'est complètement mythique, mais c'est ça que les Portugais cherchent, c'est l'île des amours, de l'amour, l'amour.
Dans les fados, on chante ça encore?
Oui, il y a un fadiste qui chante ça, appelé, par exemple, António dos Santos.
Et il chante ce mythe?
Oui.
Madrugada chegar, envolto na escuridão, procuro sempre uma esquina só para te vir passar. Envolto na escuridão, procuro sempre uma esquina só para te ver passar. Quero dizer que te amo, mas qual sombra fugiria? Passas por mim descuidada. Quando a tua imagem chamo à luz divina do dia, é tudo sombra e mais nada. A luz divina do dia é tudo sombra e mais nada. Por isso sei que me afoite em passar de noite à rua onde em má hora te vi. Procuro as sombras da noite e então escondida a lua eu canto pensando em ti. Procuro as sombras da noite e então escondido da lua, eu canto pensando em ti. Quem sou, quem és, não importa, eu sou mais um que suporta um amor inconfessado. E tu, com esse amor esquivo, serás o doce motivo que me inspirou este fado. E tu, com esse amor esquivo, serás o doce motivo que me inspirou este fado.
C'est Alcindo de Carvalho qui chantait dans cette boîte le Paré Rina dans Alfama, ici à Lisbonne. Il est très, j'allais dire, touchant. C'est presque le mot, ce chanteur Alcindo de Carvalho. Il est très fier, pas très grand, le costard croisé comme ça, un peu désuet, le cheveu calamistré, l'air très pénétré et... Il jette sur la jante féminine dans la salle un regard vraiment définitif. Pour finir, on retrouve notre ami Georges Brito, le chauffeur de taxi, qui a arrêté son taxi noir et vert, pour parler un peu avec Sylvie Comin.
Nous sommes un peuple de voyageurs. Nous savons que nous sommes ici dans un coin de l'Europe. Nous sommes presque seuls. Mais nous avons la mer devant nous. Alors, on peut sortir quand on veut. Nous ne sommes pas jamais prisonniers de quelqu'un ou de quelque chose, je crois. Et ça, c'est encore un esprit que je crois est un esprit encore portugais, vraiment portugais.
Mais toi, par exemple, t'as jamais essayé de sortir ?
Oui, avec moi... Ce sont encore l'autre sentiment qui ont été très très forts. J'ai encore mes parents, ma femme est là encore, je suis un seul fils. Alors, pour moi, partir, c'est quelque chose de difficile. Et tu sais certainement pourquoi, parce que après la sortie devient la saudade. Et je crois que le sentiment de soldat est plus fort que les autres. Alors le sentiment a été plus fort que le désir de partir. Alors j'ai resté. C'est un peuple difficile, le portugais. Parce qu'il y a quelque chose qui manque toujours. Tu sais, c'est ça.
Dia da procissão. Ave Maria. Como que petrificada em fervorosa oração é tal a sua atitude que a rosa já desfolhada da rua do capelão parece que tem virtude.
Je suis sûr qu'il y a des Portugais qui, en entendant cette voix, ont fait leur signe de croix. C'est une tradition portugaise. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais on raconte que, en écoutant cette voix. Mais je crois qu'en Europe, c'est sans doute un des arts populaires les plus vivants et les plus vrais encore que le fado au Portugal. Art populaire, ça ne veut pas dire que c'est un art qui manque de science ou de sophistication, ou bien au contraire, c'est un art savant. Et ça m'est arrivé d'être avec un copain lisboète qui m'a emmené dans un quartier assez populaire dans les faubourgs de Lisbonne. Et c'était un quartier avec des usines, et c'était le chômage, et ça sentait la sueur froide, quoi, disons. C'était assez dur comme zone. Et on a déjeuné dans un petit bistrot qui était très genre Formica, Lino, une télé qui grésille dans un coin avec une petite Sainte Vierge de Fatima et une guirlande du dernier Noël. Puis bon, on déjeunait, on parlait avec le patron, buvant un pinard qui était plus noir que rouge. Et tout d'un coup, il s'est passé ceci, c'est qu'il y a une dame qui était peut-être aux cuisines, en tous les cas qui faisait le ménage, enfin qu'on n'avait pas remarqué jusque-là, et qui tout d'un coup, du fond du bistrot, là, de ce petit resto, s'est mise à chanter. Elle s'est mise à chanter comme si elle était prise par quelque chose, par, je sais pas, comme par un esprit, par un peu, vous savez, je sais pas, comme si elle allait enfanter, comme si elle allait accoucher, cette dame. Et elle s'est mise à chanter, en fait. Le silence s'est fait, la télé qui grésillait miraculeusement s'est interrompue, et quelqu'un a vite envoyé un lardon, un môme qui était là, dans la rue. Le gosse est parti, et 5 minutes après, alors que la femme chantait, est arrivé un musicos. On est allé chercher vite le musicien avec sa guitare portugaise et qui s'est mis immédiatement à accompagner cette femme qui était prise littéralement par le fado. Elle levait les yeux au ciel comme ça de temps à autre. C'était vraiment un moment mystique dans ce rade, pas possible. Et on avait plutôt l'impression qu'elle levait les yeux, mais ça lui venait par les pieds, ça lui venait par les racines, ça lui venait par la terre ou par la mer qui est l'élément... naturel des Portugais. Le fado est né un jour quand le vent soufflait à peine et le ciel sortait de mer sur le pont d'un voilier dans le cœur d'un marin qui était triste et qui chantait. Dans la bouche d'un marin, sur ce fragile bateau à voile, le chant de douleur se meurt, dit la blessure du désir, la lèvre brûlée de baisers qui embrasse le vent et rien de plus. Adieu ma mère, adieu Marie, garde bien au fond de toi la promesse qu'ici je fais de te mener jusqu'à la sacristie, à moins qu'à Dieu ne plaise de me donner la mer pour sépulture. Quelle beauté plus immense, terre où je marche, ma montagne et ma vallée, parmi feuilles, fleurs et fruits d'or. Vois, si tu vois les terres d'Espagne, les sables du Portugal, dans un regard aveuglé de pleurs.
gastei um manto de mito e pedi mais infinito. Na urgência de viver, rasguei um manto de mito e pedi mais. Caminhei vales e rios, passei famos, passei frios, bebi a água dos meus olhos, comi raízes de dor, doei o corpo de amor. Cansei as mãos e os braços em negativos abraços de que a alma esteve ausente. Do sangue das minhas veias ofereci taças bem cheias à sede de toda a gente. No sangue das minhas veias ofereci taças bem cheias à sede de toda a gente.
Merci à toutes et à tous. C'était une nouvelle version d'un reportage sur le Fado à Lisbonne en 1991 avec Sylvie Coma. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a toujours la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Anthony Thomasson, Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grigory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter et la MC 93 à Bobigny présentent du 24 mai au 9 juin Judith. Howard Barker réécrit la confrontation terrible de deux héros, Judith et Holoferne. L'auteur détruit le mythe biblique pour construire sur ses ruines un autre drame, une vraie tragédie, faite d'ambiguïté et de mensonges, mais aussi de vérité profonde et de séduction réelle. Une mise en scène de Chantal Delacôte, avec Anne Alvaro, Hervé Briot et Sophie Rodriguez. Retrouvez Judith dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Les informations, Dominique Delaroy.
Le motard de la gendarmerie qui a été délibérément renversé par un chauffeur hier à Guérande dans Loire-Atlantique est ressorti de l'hôpital. Le militaire a eu quelques points de suture au visage et souffre de contusions. Hier après-midi, un automobiliste ivre avec 1,86 g d'alcool dans le sang l'avait volontairement percuté avant de prendre la fuite. Il venait d'être contrôlé à 153 km/h. Les gendarmes l'ont retrouvé chez lui. Il devrait faire l'objet d'une comparution immédiate demain au tribunal correctionnel. C'est la troisième fois en moins d'une semaine que des gendarmes sont délibérément pris pour cible et Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a réclamé des peines exemplaires. Manuel Valls qui a également prévenu que l'enquête serait longue, il nous faudra du temps, dit le ministre de l'Intérieur ce matin. La justice a dû relâcher le jeune homme suspecté d'être l'auteur des menaces de fusillade dans un lycée en Alsace. Cet adolescent de 18 ans, originaire de Mulhouse, avait été interpellé hier en Haute-Saône. Il ressemblait beaucoup au portrait diffusé par la police, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. La veille, deux frères d'une vingtaine d'années avaient été interpellés, puis relâché après audition. La collégienne de 13 ans disparue le 13 mai à Fontenay-le-Comte en Vendée a été retrouvée aujourd'hui par les gendarmes dans un appartement de Niort. Elle est en bonne santé apparemment. Il s'agit d'une fugue. Au plus fort des recherches, une cinquantaine de militaires avaient été mobilisés pour la retrouver. L'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika nourrit toutes les rumeurs. De 3 semaines après avoir été hospitalisé en urgence à Paris pour un AVC mineur, le président algérien, qui a 76 ans, reste invisible. La plupart des Algériens estiment qu'il doit être gravement malade pour être soustrait si longtemps aux yeux du public. Certains parlent de coma profond, d'autres affirment que ses organes vitaux seraient très touchés. On ne sait même pas où il est, au Val-de-Grâce, en France, peut-être en Suisse ou en Algérie, mystère. Paris ne dit rien tant qu'Alger garde le silence. La Corée du Nord vient d'effectuer 2 nouveaux tests de tirs de missiles de courte portée. Ça fait 6 au total en 3 jours, une série d'essais qui a poussé le secrétaire général de l'ONU à s'inquiéter des risques d'escalade dangereuse. Pyongyang estime que l'entraînement militaire est un droit intouchable d'une nation souveraine. Carlo Ancelotti veut quitter Paris. Celui qui a offert au PSG son premier titre de champion de France depuis 19 ans l'a clairement déclaré hier. Son objectif est très certainement le Real Madrid. Mais le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, n'a pas complètement renoncé à l'idée de le conserver, quitte à engager un bras de fer. Si le Real fait signer un contrat à Carlo, il y aura un problème juridique, a-t-il expliqué, sans pour autant fermer la porte à toute négociation. Les deux parties devront donc trouver un accord.
Cette semaine, dans le Grand Live d'Inter, Christophe Crenel reçoit Coco Rosy, Fauve,
offre-moi dès ce soir ta peau brunée, tes lèvres mauves, tes seins terrains, tes cheveux noirs, et qu'on se noie dans les nuits fauves.
Et Chassol.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter.
La voix est libre.
Il est tout juste 16h04, l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon. Avec vous, Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Dominique Delaroy, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir un magnifique pianiste, Nicolas Angelić. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ou Nicolas, bon, on peut dire les deux. Moi j'aime bien Nicolas, ça fait une jolie liaison. Et on s'est vu la dernière fois, c'était à Bordeaux. Vous
oui.
avez gagné une victoire de la musique.
Oui, oui,
superbe.
Tout à fait. Oui.
Et vous deviez repartir tout de suite le lendemain et puis vous m'avez dit, oh finalement je reste là. Vous êtes resté longtemps là-bas?
Je suis resté un jour de plus. J'aime bien faire ça de temps en temps. Après les concerts ou après les occasions où on va pour un événement musical, c'est une façon de reprendre un peu de liberté, comme on essaye tous de faire par rapport au planning.
Personne ne sait où vous êtes pendant ce temps-là, parce que ce n'était pas prévu, ça.
Je préviens si, toujours, en cas d'urgence, les choses. J'aime bien m'échapper un petit peu comme ça. Ça crée un peu de panique, mais pas trop.
Oui, mais bon, vous avez une carrière très riche. Vous êtes venu des États-Unis lors de ce moment à Bordeaux, là, quand vous avez gagné cette victoire, où nous étions, bien sûr. Vous avez fait une tournée aux États-Unis. Vous êtes tout le temps en voyage, donc vous êtes né aux États-Unis.
Oui.
Il faut bien le dire, vous avez donné votre premier concert à 7 ans, vous êtes entré au Conservatoire de Paris à 13, et vous avez eu des maîtres tels qu'Aldo Ciccolini, Von Loriot, Michel Béroff, vous avez travaillé aussi avec Marie-Françoise Buquet, Léon Fleischer, Dmitri Bashkirov et Maria Jouan-Pires, et puis après on ne peut pas citer tout, parce que ça s'est emballé, des concerts, des festivals, des disques, les meilleurs chefs d'orchestre, etc., etc., prix à Cleveland, au concours international Gina Bakauer, au prix des jeunes talents de la Roure, et puis cette victoire en 2013, donc. Et après ça, évidemment, une collection de disques absolument superbes qu'on va explorer en partie. Et puis, il faut le dire tout de suite, pour que ce soit noté et qu'on n'oublie pas, vous allez jouer au Théâtre des Champs-Élysées mardi 11 juin à 20h, un programme Maurice Ravel et Modeste Moussorgski. Alors évidemment, je pense que le rapprochement est clair. Moussorgski a écrit les tableaux d'une exposition et Ravel les a orchestrés. Il a été passionné par cette œuvre.
Bien sûr, bien sûr. Ravel était un orchestrateur totalement... Enfin, incroyable. Il avait un talent pour ça, entre autres talents qu'il avait. Il a traduit certaines choses de cette œuvre d'une façon très, très éloquente, personnelle, mais tout en respectant Moussorgski, l'œuvre de Moussorgski.
Alors, il y a un personnage qui disait que les compositeurs français n'existaient pas, c'est Johannes Brahms, mais on n'est pas rancunier du tout. C'est pourquoi je vous propose d'entendre votre propre version, Nicolas Angelić, du premier concerto pour piano, Rondo.